Philip Jones, vous publiez à la différence le deuxième volume de vos œuvres littéraires qui s'intitule Fiction et qui est daté de 1991 à 2004. Alors cet album s'appelle Fiction et ne précise pas s'il s'agit de nouvelles ou de récits. Alors j'aimerais savoir si votre définition de la nouvelle a une dimension particulière qui fait que vous n'avez pas désigné dans ce volume.
Mais je vous dirais tout simplement que ce volume a été fait derrière mon dos. C'est Jacques de Decker qui en est responsable, qui a d'ailleurs fait une préface superbe à ces textes, et c'est sorti comme cela, parce qu'il y avait déjà eu, je crois en même temps, mais de nouveau derrière mon dos, toujours par Jacques, je crois que c'était à l'occasion de mes 80 ans à l'époque, le volume 1 qui est intitulé « Poésie 1900, je ne sais plus combien », à 2004.
Un volume à propos duquel nous étions d'ailleurs entretenus déjà. Hein, Poésie 1944-2004.
C'est ça, oui.
Tandis qu'ici, nous sommes 1991-2004.
Le décalage étant dû au fait que je me suis mis à la nouvelle, parce que j'aime bien le terme nouvelle, que quelques années plus tard que d'avoir commencé à écrire de la poésie. Et bon, j'ai écrit ça parce que, enfin, je me suis mis à écrire des nouvelles parce que j'avais le sentiment que je tournais un peu en rond dans mes poèmes et qu'il fallait un peu se changer les idées, surtout changer sa vision du monde. Et j'en suis arrivé à cela en ayant repris par hasard ou retrouvé par hasard des nouvelles que j'avais dû écrire vers les années 1944 et qui étaient très très mauvaises, de mal foutues, c'était mal écrit, enfin bref, je me suis mis en tête qu'il fallait que je réécrive ça selon ce que j'étais devenu. Je les ai réécrites, je crois elles ont été publiées dans la première partie de ce recueil dont vous parlez, parce que, bon... il y a là, en fait, 5 recueils, hein, entre les dates précises. Et voilà, enfin, c'est venu comme ça, par une nécessité, je dirais, intérieure, de besoin de renouvellement personnel, et aussi parce que j'étais sorti en 1904 et même avant, j'étais sorti de mon travail quotidien qui a été... conservateur de musée, secrétaire perpétuel de l'Académie. Enfin, j'avais plus de temps. Maintenant, je dirais aussi que écrire des nouvelles ne m'a pas pris plus de temps que d'écrire des poèmes.
Mais vous disiez que vous aviez le sentiment de, pas de tourner un peu en rond, mais d'être un peu arrivé au bout de la démarche poétique. En quoi est-ce que l'écriture de nouvelles donnait un prolongement ou vous permettait un plus grand espace de création?
Mais je crois que c'est dû au fait que la nouvelle s'articule autour de faits. On raconte plus une histoire dans une nouvelle qu'on raconte une histoire dans un poème. Et je crois que c'était cela qui me faisait défaut au début du temps où j'ai écrit des nouvelles et qui m'a permis non seulement d'écrire des nouvelles qui valent ce qu'elles valent, mais qui m'a aussi permis de me recharger au niveau poétique, parce que je n'ai pas cessé d'écrire des poèmes depuis lors. Mais j'ai le sentiment que ça m'a donné un souffle nouveau, si je puis ainsi m'exprimer. Et maintenant, je dirais que je vais de la prose à la poésie et réciproquement, avec beaucoup plus facilité qu'avant.
Alors, en lisant mais comme vous m'avez dit, ce que j'ignorais, que ce recueil a été constitué finalement sans que vous n'y ayez vraiment participé à sa conception, je voulais vous interroger sur la répartition en 5 grands chapitres dont je vais donner les titres. L'embranchement des heures, le double du calendrier, l'angle de vue, instant multiple et l'ombre portée. Et il n'y a pas dans la répartition des nouvelles d'ordre chronologique qui est indiqué au lecteur. Alors, est-ce que l'organisation des nouvelles sous ces titres-là vous convient ou à quoi correspond-elle pour vous ?
Mais elle correspond à une évolution, tout simplement, puisque les titres que vous avez cités sont le titre de chaque volume qui a paru antérieurement à celui-ci, aux éditions La Différence, et qui ont été repris dans l'ordre où ils ont paru.
Donc ces titres-là sont de vous. Donc là, je peux prolonger ma question.
Oui.
Alors j'ai eu le sentiment, en lisant chacun des titres de ces volumes, que c'était là que se réfugiait le reliquat, disons, d'inspiration poétique des poèmes. Par exemple, L'embranchement des heures, j'ai l'impression que vous développez là, par le titre, une sorte de géométrie du temps.
Oui, c'est juste. Oui, c'est juste. Non, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les titres sont plus des souvenirs de poèmes qu'une invention faite au moment même. J'ai écrit mes nouvelles à la queue leu-leu, si je puis ainsi m'exprimer, et puis lorsque j'estimais qu'il y en avait suffisamment, je trouvais un titre pour les mettre ensemble et demander qu'ils soient publiés. Voilà.
Alors, le double du calendrier, là... Je me suis dit, c'est dans le fond, pour vous qui êtes aussi un grand spécialiste des œuvres plastiques, c'est là plus un apport de votre expérience dans le monde de l'essai consacré aux œuvres plastiques. Le double du calendrier, c'est un peu comme un miroir du temps,
oui,
cette fois-ci.
Oui. Non, mais vous...
On est dans l'image.
Vous tapez juste, si je puis ainsi m'exprimer. Non, c'est exactement ça. Et je crois que même dans ces nouvelles, je ne puis pas oublier que j'ai été historien d'art, que je me suis intéressé à l'art, et je crois qu'il y a quand même pas mal de références à des œuvres d'art dans ces nouvelles qui font qu'il y a cette familiarité, cette connexité, ce miroir dont vous parlez précisément.
Alors, si vous voulez, j'ai trouvé des correspondances pour les trois autres titres.
Ah bon ?
Je vous les soumets. Alors, pour l'angle de vue, là, on revient à, comme c'est l'angle de vue, ce n'est pas le point de vue, à une géométrie du regard, cette fois-ci. Et je me dis que c'est peut-être le regard que vous avez porté pendant de très nombreuses années sur les œuvres d'art pour les transmettre, en quelque sorte,
oui,
qui a peut-être inspiré ce titre et cette nécessité.
Oui, l'angle de vue, c'est, je crois, la volonté qu'on a sans doute tous, vous écrivez aussi, qu'on a sans doute tous, lorsqu'on écrit une chose, c'est de savoir comment elle peut s'envisager sous un autre angle de vue. Et d'essayer d'arriver à un moment donné à prendre un sujet et en faire, je dirais, presque le tour, afin qu'il soit une entité et qu'il puisse réfléchir, pour revenir à votre miroir, qu'il puisse réfléchir différents aspects de ce sujet.
Est-ce que vous pouvez, Philippe Jones, nous dire comment naît l'inspiration d'une nouvelle ? Est-ce que vous avez en mémoire le processus ? Est-ce que vous partez d'une image ? Là, ce serait plutôt l'artiste, le spécialiste de l'art pictural. Ou est-ce que vous partez d'une sensation? Là, ce serait plutôt le poète. Ou est-ce que ça vient d'autre chose?
Ça provient... Les sources en sont multiples. Il y a le spectacle qu'on a de quelque chose qui éveille, en quelque sorte, une imagination et qui peut se féconder et grandir, et qui devient une histoire. Ou bien c'est un souvenir qui revient à la mémoire et sur lequel on se met à broder. Donc il y a toutes sortes, je dirais, j'ai le sentiment quand j'écris un texte, même lorsque Marginal m'en demande un sur un thème donné...
Marginal vous en demande à chaque livraison.
Oui, je suis un peu avare ces derniers jours.
C'est peut-être pas la demande qui manque, c'est l'offre.
Et voilà, donc il y a une sorte de diversité, d'inspiration, de motivation aussi, des souvenirs et aussi des inventions sur le champ, si je puis dire, en fait des inventions qui peuvent, au moment de l'écriture, faire appel alors à des souvenirs, mais qui est une sorte de coups de tonnerre ou de foudre, c'est comme vous voulez, mais qui, généralement chez moi, est accompagné d'une image mentale. Je crois que l'image mentale, dans ce que j'appelle ma création, est un élément fondamental. Parce que, en poésie, c'est exactement la même chose. Au fond, il n'y a pas de différence, je dirais, entre l'inspiration poétique, pour employer un grand mot, et celle de la nouvelle. Le processus est à peu près le même, il n'y a que le tracé diffère. Le tracé diffère, puisque dans la nouvelle, on est plus attiré au journalier, à l'aventure qui s'établit ou qui se situe entre un début et une fin. Dans le poème, je ne crois pas qu'il y ait de début réel ni de fin réel, mais dans la nouvelle, il doit y avoir un début et une fin. Mais je dirais aussi que la nouvelle, chez moi, vous disiez qu'elles sont courtes. Oui, parce que je ne suis pas un prosateur, sauf quand j'ai écrit des textes d'histoire de l'art. Enfin, ça, c'est une autre question. Mais je n'ai pas le sentiment que j'aurais pu, peut-être parce que je n'ai pas eu le temps ni l'occasion, écrire un roman. Tandis que dans ces nouvelles, j'ai le sentiment d'avoir acquis une autre dimension que dans mes poèmes, parce que c'est une narration, mais qui est très limitée dans le temps. Enfin, c'est peut-être plus des moments de vie qu'une vie. C'est plus des moments qui me semblent intéressants au niveau de leur spécificité que l'histoire d'un homme qui traverse son existence ou l'histoire d'un couple qui traverse son existence. Enfin, peu importe, hein, c'est pas une histoire complète, si je puis dire. Hein. C'est des
fragment,
moments.
C'est un fragment.
Un fragment.
Vous avez fait la comparaison avec l'image mentale dont vous aviez la nécessité pour écrire. Est-ce qu'on pourrait alors s'interroger sur le travail que vous avez mené d'essayiste sur des œuvres picturales? Est-ce que, d'une certaine manière, l'image mentale à laquelle vous faites appel pour écrire de la poésie ou de la prose ne correspond pas, en fin de compte, dans votre écriture d'essai, à l'image réelle que vous donne l'œuvre d'art sur laquelle vous travaillez, ou bien l'œuvre plus générale d'un peintre ou d'un artiste?
Oui. Là, vous avez raison, parce que je crois que lorsque j'ai écrit sur, je ne sais pas moi, Anne Bonnet ou peu importe qui, c'est à partir d'une image aussi que j'écris. Même, je ne sais pas si j'ai écrit avec ma femme, avec Françoise, un livre sur Bruegel. Eh bien, pourquoi ai-je écrit sur Bruegel? Je ne suis pas du tout un spécialiste de Bruegel, ma femme l'est plus que moi, mais j'ai vécu avec des œuvres de Bruegel pendant 25 ans, et c'est ça qui revient à l'esprit lorsque j'écris sur Bruegel. On agence ça différemment, puisque c'est un essai ou c'est un bouquin d'histoire de l'art, mais il y a tout de même au départ cette cohabitation imaginaire avec la chose dont on parle.
Alors, quand on partons de Bruegel, est-ce qu'on peut imaginer que dans un tableau de Bruegel où il y a finalement une infinité de fragments de petites histoires, si on se promène dans un tableau de Bruegel, est-ce que cette approche-là, kaléidoscopique démultipliée, je dirais, est quelque chose qui vous aide à écrire et à créer cette image mentale?
Oui, sûrement, sûrement. Oui, je crois que l'image mentale est une appréhension du sensible qui s'intellectualise, si je puis dire. Enfin, qui passe de là à là, hein, qui va de l'extérieur à l'intérieur. Et une fois qu'elle est arrivée à l'intérieur et que ça clope, si je puis ainsi m'exprimer, il y a une image mentale qui naît.
Alors, reste alors à la formuler, à passer
à formuler.
De l'intérieur à un retour vers l'extérieur.
Et là, ça prend du temps.
Alors, comment travaillez-vous alors? Pour la poésie, on a déjà évoqué le travail, mais pour la nouvelle, comment?
Mais pour la nouvelle, c'est de nouveau à partir de cette même image mentale qui se démultiplie et je me mets à l'écrire, mais je ne sais pas où je vais toujours. Hein. Ou bien il y a une image mentale qui est suffisamment vaste pour passer de la droite à la gauche, traduisant ce qui est de la droite à la gauche, ou bien il y a une image mentale qui est un point de départ, et au fur et à mesure qu'on l'écrit, il y a d'autres images qui viennent, gentiment d'ailleurs, hein, c'est ça qui est bien. Mais ça prend un certain temps, parce que l'écriture, la formulation est une chose qui prend du temps. moi, parce qu'il ne suffit pas de décrire ce qu'on voit, encore faut-il savoir le décrire et voir vraiment ce qu'il y a dedans. Mais voilà, je crois qu'il y a cette possibilité, et je dirais qu'une une fiction, plutôt une nouvelle chez moi, je dirais que comme j'en écris une, il me faut certainement 3, 4, 5 jours, une semaine sans doute, pour essayer de la mettre, et puis je la laisse dormir, et puis je la reprends, ben, comme vous le faites et comme nous le faisons tous. Ah, oui.
Alors, on vous avait évoqué Marginal, j'aimerais qu'on en parle un peu, et sous l'angle suivant, est-ce que le fait d'avoir une thématique qui est imposée, puisque c'est le principe de Marginal, Jacques de Decker envoie une lettre à ses auteurs, oui, dans laquelle il dit, voilà, ce mois-ci, vous avez un mois pour écrire une fiction sur telle thématique. Est-ce que, et paradoxalement, un thème imposé n'offre pas davantage de liberté à l'auteur?
Ça le fixe, en tout cas. Hein, ça, il est plus ou moins occupé par le thème. Mais je vous dirai, je vous cacherai pas qu'il y a des thèmes que j'ai traités qui m'ont fortement, au départ, ennuyé. Alors il fallait trouver un moyen de tricher pour arriver à dire quelque chose qu'on avait envie de dire.
Ouais, c'est l'esquive.
Donc, oui, l'esquive. Je dirais que le thème donné est un éveil, mais pas plus. Je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que... Ou bien alors, il faut, on en arrive à un essai, n'est pas une création romanesque ou à une nouvelle, non. C'est ça le problème.
Hein. Alors, avant d'évoquer, je vais vous proposer d'évoquer quelques-unes des nouvelles qui constituent le recueil fiction. J'aimerais qu'on aborde, mais peut-être plus brièvement, l'écriture à laquelle vous vous livrez lorsque vous écrivez un essai sur une œuvre d'art. Mm-hmm. Est-ce que vous donnez une liberté littéraire suffisant pour que l'art dont vous évoquez la teneur transparaît dans votre manière d'écrire, ou est-ce qu'une certaine rigueur scientifique finalement vous contraint?
Non, je dirais que la rigueur scientifique ne me contraint pas, parce que peut-être me contraignait-elle au début, mais je dirais que assez rapidement, je n'ai écrit que sur des gens que j'estimais, pour lesquels j'avais de l'admiration, des ouvrages importants. Bien sûr, j'ai fait des, je ne dirais pas des articles de complaisance, enfin, on est amené dans sa vie, surtout quand on est conservateur d'un musée, de répondre à des demandes qui vous sont formulées parce que, bon, on doit faire plaisir à X ou Y. Et alors là, c'est plus, je dirais plus une habitude, non? Mais sinon, non, là je crois que tout à fait, lorsque j'ai écrit, je ne sais pas moi, l'irréel, pareil, ou l'irréalisme au XIXe siècle, là c'était un titre que j'ai choisi, et que j'ai fait pour un éditeur, mais en l'ayant choisi avec l'éditeur, et lui en ayant donc proposé ce que je voulais faire. Et là, non, il y a une volonté de servir là, mais avec toutes les possibilités qui sont les miennes, c'est-à-dire avec l'écriture.
Alors, si vous voulez bien, on va passer en revue quelques-unes des nouvelles que j'ai choisies parce qu'il me semblait qu'on trouvait dans celles que je vais vous soumettre une sorte de fil d'Ariane avec des thématiques qui reviennent. Alors, la première que je vous propose d'évoquer, qui se trouve dans la première partie du recueil, donc Le Creux des Nuits, la nouvelle s'appelle Le Creux des Nuits. C'est une nouvelle où se trouve présente la frontière presque indicible entre le sommeil, le rêve et une réalité qui se reconstitue dans le souvenir. Le personnage entre dans une sorte de tableau dans lequel apparaissent des trains électriques, mais en même temps des soldats anglais qui viennent libérer un village, qui viennent libérer la ville dans laquelle ils se trouvent. Alors on trouve la difficulté pour le lecteur d'identifier ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, ce qui est le souvenir et ce qui ne l'est pas, et ce qui est le rêve et ce qui ne l'est pas, dans un environnement où la guerre est présente. Mm-hmm. Alors, est-ce que cette thématique-là du sommeil qui révèle des réalités vécues ou transmises est une thématique que l'on peut qualifier de jonesienne, je dirais.
Je ne sais pas si elle est jonesienne, mais enfin, elle est incontestablement parce que la guerre, et que la guerre, bon, m'a profondément touché, bouleversé, tout et tout, et que, bon, mon père qui a été fusillé, lorsque j'étais tout gosse, me parlait beaucoup de la guerre 14-18. Il avait fait la guerre 14-18, son frère et son unique frère a été tué en 16. Et bon, donc, depuis mon enfance, j'ai entendu parler de ces choses-là, et je crois que la guerre a dû éveiller en moi des tas de souvenirs qui sont à cheval peut-être sur une certaine réécriture du souvenir, mais ou bien qui sont une invention qui vont se mêler à ce qui a été. Donc là, il y a une interférence. Je vous dirais franchement que le sommeil, je rêve relativement peu, mais je m'endors difficilement et je rêvasse avant de m'endormir. Et là, il y a des tas d'images qui reviennent. Mais le sommeil en tant que tel, à de rares exceptions près, n'a jamais éveillé en moi la volonté de le traduire en écriture.
Je vais vous lire un petit extrait de cette nouvelle, parce que j'imagine que vous ne vous souvenez pas de toutes les nouvelles. Alors, le personnage central s'appelle Martin, et la première phrase de la nouvelle, c'est « Il était souvent pris aux abords du sommeil par la peur de l'espace. Un vide se creusait sous le matelas et la couche se mettait à bouger. Ce qu'il craignait le plus, c'était la chute, et c'est pourquoi il s'efforçait de rester éveillé. » Je passe quelques lignes. Son chemin est évoqué ici. Il rebroussa chemin et parvint à une clairière qui ressemblait à sa chambre d'enfant, une grande surface unie au centre de laquelle tournait le train électrique et où s'affrontaient les soldats de plomb. La gare avait été prise d'assaut. C'était le 3 septembre et les Anglais entraient dans la ville. C'est là où j'évoquais cette espèce de vertige dans lequel on est pris. On est dans une chambre d'enfant, mais le combat est réel dans le souvenir.
Oui. Non, mais là, je crois que ça rejoint ce que j'ai essayé de vous dire. Je ne me souvenais plus avec précision de cette nouvelle-là. Mais il est évident que ce que je vous disais au sujet de rêvasser plutôt que de rêver se trouve, je crois, là. Et d'autre part, le souvenir, oui, la chambre d'enfance, vous venez de la reciter, elle revient à mon esprit, je la vois très bien avec le chemin de fer, oui. Et alors évidemment les soldats de plomb, parce que de mon temps, on avait toujours des soldats de plomb, c'était quand même une chose. Sans être militariste ou sans être un batailleur, le soldat de plomb, c'est une partie de l'enfance,
absolument,
pour moi.
Absolument. Alors voilà, donc, une autre nouvelle que j'aimerais évoquer avec vous, qui est une nouvelle extrêmement sensuelle et extrêmement étrange. Le titre en est « Une aube levée ». Alors, dans cette nouvelle, un père surprend sa fille en train de faire l'amour et les yeux du père et de la fille ne se quittent pas. C'est comme, dites-vous, un accouchement au monde pour la fille qui dit à son père « Merci d'être resté là, c'était pour moi un accouchement. » C'est une sorte de troublante évocation du détachement auquel les enfants doivent, à un moment donné, vivre pour se séparer des parents. Mais c'est écrit dans une situation qui est tellement inattendue pour décrire cela. Alors comment est venue cette nouvelle?
Vous voulez dire comment elle est venue? Je crois qu'elle est venue très naturellement, comme la plupart des histoires qu'on raconte. Mais il me semble, mais il faudrait que je me souvienne, ça a été écrit quand même il y a pas mal de temps, et que je me souvienne comment l'image de cette transmission, si je puis dire, se fait, de ce passage d'âge. Hein. Et là, je crois que j'ai sans doute transmis l'image du père, bon, elle est là, et ça, je crois qu'elle a toujours été en moi assez vivement, mais je n'ai pas de sœur, je n'ai pas de fille, J'ai des petites filles, mais enfin, ça a été écrit avant que
on est dans la création ici, on est dans la création littéraire, donc c'est pas. Je ne vous demande pas si vous avez vécu cette situation-là. C'est à l'écrivain que je m'adresse, qui invente
mais
une fiction.
Crois, j'essaie de revenir en arrière, et je crois que c'est la notion de passage qui était importante, la notion de passage d'un état filial à un état de maturité, à un état d'indépendance. Et je crois que la présence du père que j'ai voulu évoquer ici est une sorte d'accompagnement, de permission, de billet de train qu'on donne à quelqu'un.
Ce qui est étonnant, c'est que dans cette nouvelle, d'une certaine manière, le très réel est finalement la métaphore.
Oui.
C'est ça. On aurait pu imaginer une situation inverse où le père dit « tu peux partir maintenant, tu es là ». Non, là, c'est vraiment une transmission d'une incroyable sensualité qui passe par le regard. Je vais lire un petit extrait comme ça, vous vous souviendrez. Jean-Claude, donc, qui est le père, avait la main sur la poignée de la porte lorsqu'il fut surpris par un bruit sourd et rythmé qui provenait de la pièce au fond du couloir, d'où filtrait un ray de lumière. Il approcha, le bruit était distinct, celui d'un choc répété. Il poussa la porte, une lampe de chevet éclairait le lit et un couple enlacé. Jean-Claude allait se retirer, conscient de son indiscrétion, lorsque le regard d'Anne, sa fille, croisa le sien et le fixa. L'accouplement se prolongeait, le partenaire ignorant l'intrusion, les yeux d'Anne l'hypnotisaient, l'empêchaient de bouger. Et à la fin de la nouvelle, on a cette phrase réelle. Le lendemain matin, « Tu ne m'en veux pas d'être resté, » dit le père. « J'attendais quelque chose comme ça depuis mon adolescence. Le rêve de ta présence. Il n'y a pas que les femmes qui mettent au monde. Toi aussi, tu viens de m'accoucher. » Donc on est dans une... Là, on est vraiment dans l'angle de vue tout à fait inattendu.
Oui, c'est inattendu, mais qui peut arriver.
Absolument.
Qui peut exister. Non, mais vous parlez de sensualité. Là, je crois que c'est un élément important de mes nouvelles. Je suis un être pudique, mais on est habité par la sensualité, heureusement pour nous. Et c'est la sensualité, je crois que je l'exprime dans mes poèmes, mais je ne l'exprime pas d'une manière, pas absolue non, mais d'une manière immédiatement perceptible. Et je crois que cette volonté de parler de sensualité, de l'exprimer d'une manière ou d'une autre, m'a été donné plus grâce à la prose qu'au vers. Que pas pourquoi.
Mais c'est là où on est dans une sorte de métaphore. La nouvelle permet aussi très facilement la métaphore parce que et l'écrivain peut s'évader dans des espaces qui ne sont pas contenus dans le réel, mais le lecteur aussi.
C'est vrai.
Alors, l'autre nouvelle que je voulais évoquer avec vous s'intitule « La silhouette initiale ». Alors, ce qui m'a retenu dans cette nouvelle, c'est le fait que le personnage, dans un des poèmes qu'il dit avoir écrit et qu'il dit à sa partenaire, indique qu'il a eu la prémonition d'un tableau qu'il montre lors d'une inauguration. Et il dit « Ce réel existait pour moi avant ma découverte de ce tableau qui le clarifie. » Est-ce que là, on n'est pas finalement, d'une certaine manière, dans votre démarche de poète, de nouvelliste et d'essayiste sur l'art ? C'est-à-dire qu'on peut y avoir poétiquement une prémonition d'un tableau ou d'une émotion artistique qu'on va ressentir.
Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Oui, c'est un fait. Et oui, je crois que je l'ai dit d'une façon précise et... Non, c'est très amusant de faire ceci avec vous parce que, ça me remémore des tas de choses que j'ai oubliées. Hein.
Bien sûr.
Parce que je crois que écrire, c'est se débarrasser de ce qu'on porte en soi. Et une fois qu'on en est débarrassé, on n'y revient plus. Hein. Vous relisez beaucoup ce que vous écrivez ?
Jamais.
Jamais, pardon.
Nous sommes d'accord. J'oublie même ce que j'ai écrit. Donc je suis tout à fait solidaire de la difficulté que représente cet exercice pour vous. Parce que moi, j'ai l'avantage d'avoir relu avant de venir vous voir. Alors, les deux, dans cette nouvelle aussi, vous abordez, vous évoquez, vous mettez en présence deux tableaux, puisque l'histoire raconte l'inauguration de ce qui devait être une galerie d'art, ou dans laquelle sont exposées deux œuvres, Ville abandonnée de Knopf, et l'Empire des Lumières de Magritte. Et d'une certaine manière, ces deux œuvres sont un appui idéal pour une démarche comme celle du poète qui se rend compte qu'il a déjà écrit ce qu'il va voir à un moment donné.
Oui, c'est vrai. Non, c'est... Bon, et je crois que ce qui est intéressant, c'est que la ville abandonnée et le Magritte...
L'Empire des Lumières.
L'Empire des Lumières sont deux œuvres qui sont au musée de Bruxelles d'ailleurs et qui se répondent en quelque sorte. Hein. Le thème est identique ou à peu près et il est traité par deux tempéraments totalement différents dans une technique qui est très proche, puisque ce sont deux figuratifs et deux peintres très scrupuleux, parce que Magritte, tout en étant révolutionnaire, souvent est un parfait...
Faiseur.
Faiseur. Et voilà, je crois que ça, c'est intéressant. Et l'évocation, évidemment, l'évocation des deux thèmes, est-ce qu'il faut les décrire plus que je ne l'ai fait ? Je ne sais pas. Parce que je n'ai plus le souvenir suffisant de savoir ce que j'en dis, est-ce que je ne fais que les citer, ou bien est-ce que je les décris ou pas. Parce que si je les cite, c'est suffisant pour une nouvelle, si je les décris, ça devient l'histoire de l'art.
Alors, il y a un endroit où vous décrivez, le personnage dit « Viens, répéta Martin, il faut que tu le vois ». C'était l'Empire des Lumières. Dans cette version, Magritte avait réussi à juxtaposer en parfait équilibre un ciel de jour et un paysage de nuit. La présence de l'entité se traduisait par la verticalité de l'arbre, mince à la base, touffu au sommet, et servant de trait d'union entre le clair et l'obscur. À 50 ans de distance de la ville abandonnée, l'œuvre surréaliste semblait lui répondre.
C'est ça.
Donc on a la description, mais pas vraiment non plus.
Non,
l'important,
non.
C'est le fait qu'il se réponde.
Il se répond. Oui, c'est bien. Oui. Non, je crois que... Il est certain que l'Empire des Lumières que j'ai eu dans mon bureau pendant quelques années, devant moi, m'a beaucoup impressionné. C'est un tableau que je trouve magistral. Je ne dis pas que c'est une grande peinture, hein. Mais l'invention de cette peinture est quelque chose d'extraordinaire.
En vous entendant, je me dis que vous avez quand même eu de la chance. Vous avez des bureaux où il y avait Bruegel, où il y avait Magritte. Comment ça changeait régulièrement les tableaux qui ornaient
votre... J'avais le bonheur à l'époque.
Vous choisissiez.
Oui, et je pouvais choisir ce que je voulais, étant donné qu'il n'y avait pas de musée d'art moderne à l'époque. Hein, enfin, de locaux. Oui. C'est les locaux, j'ai
pris
25 ans à les faire, ou à les obtenir plutôt. Ouais. Et voilà, alors je pouvais prendre des tableaux, j'ai eu un superbe Bodard devant les yeux pendant quelque temps aussi, voilà.
Alors, la dernière nouvelle que j'aimerais qu'on évoque, je l'ai choisie en reprenant la table des matières et en voyant le titre qui était « La lettre du père ». Et sachant que votre père a été fusillé pour résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'ai voulu aller voir, inspiré par le titre, ce que ce titre-là donnait comme nouvelle. Et j'y ai trouvé une nouvelle qui... est à nouveau une nouvelle de transmission qui se passe aussi pendant la guerre. Le personnage Raymond se fait exfiltrer et il reçoit un message « Sors de ton indolence », qui est une sorte de message que le père, dont il ne sait pas s'il est mort ou pas, devient une sorte de mot de passe.
Oui,
mais
oui.
Non seulement de mot de passe technique pour se faire exfiltrer clandestinement, mais aussi comme un viatique pour la vie.
Oui,
est-ce que mon analyse correspond au souvenir que vous avez
de... Très bonne. Non, c'est évident. Mais c'était peut-être c'était des nouvelles, celle-là par exemple, assez difficiles à concevoir et à écrire. Hein, parce que c'est une chose qui m'a toujours préoccupé beaucoup et qui n'a pas pu se réaliser finalement, puisqu'il est mort et que moi je suis resté ici, alors qu'on devait partir ensemble, mais voilà. Et donc, à partir d'une donnée qui n'est sans espoir, au fond, j'essaie dans ça de transformer l'issue, quoi. Et ça, c'est aussi une chose que je peux faire en prose et que je ne saurais pas faire en vers.
Est-ce qu'on pourrait dire que la fiction permet plus, je ne vais pas dire plus facilement, mais est un chemin plus praticable pour faire un deuil?
Oui, sûrement, sûrement. Et je crois que c'est un chemin plus praticable aussi pour, j'allais dire pour modifier la réalité, ce qui est faux, puisqu'on part de réalité. Mais enfin, en poésie, on part aussi d'une réalité pour arriver à autre chose. Je crois qu'on part toujours, d'une réalité. On n'invente rien au départ. Il y a un contact qui se fait avec le monde extérieur, qui se transforme, etc., etc. Et puis on arrive à créer quelque chose. Mais je crois qu'il est plus facile d'écrire ça en prose que d'écrire ça en vers.
Philippe Jones, nous allons mettre un terme ici à ce deuxième entretien consacré à vos œuvres rééditées. À la différence, les poèmes dont nous avions parlé, et ici le volume Fiction qui reprend vos nouvelles de 1991 à 2004. Donc il faudra faire un volume 2004 et suivant.
Oui.
Et notamment en proposer davantage à la revue Marginale.
Et donc, de l'appel du pied.
Voilà, exactement. Exactement. Alors je ne peux que recommander à ceux qui écoutent cet entretien de se plonger dans l'un ou l'autre des volumes, celui de poèmes, celui de fiction. Et de trouver un écrivain particulièrement attachant et à lire Toutes affaires cessantes.
Merci Philippe Jones. Merci beaucoup.